Alors, nous allons entendre maintenant l'association Regards Citoyens. Je précise, oui, que l'association Droit et Démocratie n'a pas souhaité venir, considérant que ce qu'elle avait à dire était plus pertinent par rapport au projet de loi sur la fraude. Donc, elle est entendue par le rapporteur du projet de loi sur la fraude qui est Alain Ziani. Voilà. C'est pourquoi cette association n'est pas venue. Alors, association Regards Citoyens, donc Monsieur Christophe Boutet, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, nous souhaitons tout d'abord vous remercier de recevoir notre association. Regards Citoyens travaille depuis 2009 à valoriser les actions de l'action des élus au Parlement à travers d'initiatives comme nossénateurs.fr ou nosdéputés.fr. Et en fait,
Monsieur Christophe Boutet, ne vous laissez pas impressionner.
Je ne me laisse pas impressionner. Donc en fait, en réutilisant les données publiques liées au Parlement et en suivant l'activité des élus, on a pu constater l'importance démocratique que revêt la transparence des prises de décision publiques. Et à ce sujet, on a pu identifier un certain nombre de manquements à la matière. Donc on a formulé, dès l'annonce des travaux du gouvernement, un ensemble de 10 propositions sur les deux projets de loi. Les débats à l'Assemblée nous ont permis de les formaliser au travers d'un certain nombre d'amendements. Et comme anticorps, ces amendements sont publics et disponibles sur notre site. En ce sens, on est bien sur une action de plaidoyer également. Et de pointer donc en fait différents problèmes qui nous sont apparus sur les textes. Tous n'ont pas été entendus lors de la première lecture à l'Assemblée nationale et on compte aujourd'hui sur votre sagesse pour vous y intéresser. Néanmoins, on tient à saluer les...
Les présenter succinctement.
Les présentera succinctement, effectivement. On tient à saluer les progrès accomplis néanmoins en première lecture à l'Assemblée nationale. Les avancées des deux projets de loi en termes de contrôle d'intérêt et de patrimoine sont indéniables. La Commission pour la transparence financière de la vie politique avait beaucoup de mal à travailler jusqu'alors. Les moyens et les outils d'investigation mis à la disposition de la future haute autorité devraient lui permettre d'assurer un contrôle efficace des déclarations de patrimoine et d'intérêt globalement d'à peu près 7000 décideurs publics. Certains peuvent s'alarmer de ce nombre. Néanmoins, il paraît tout à fait raisonnable au regard de l'examen que fait la commission des comptes de campagne sur plusieurs dizaines de milliers de comptes, s'agissant d'une commission non permanente, alors que là on sera sur une haute autorité qui devrait disposer des moyens suffisants pour agir. Et un mécanisme de rapporteur corrige efficacement les lacunes de fonctionnement qui sont rencontrées par l'actuelle commission. Comme on l'avait suggéré, le texte prévoit également un mécanisme d'alerte citoyenne par lequel tout électeur sera en mesure de faire remonter des observations à la haute autorité. Néanmoins, il nous semble que la restriction de ce mécanisme d'envoi d'observation aux seuls électeurs pourra être levée parce que la limitation aux seuls votants induit une notion d'électeur qui ne garantit de fait pas leur participation active à la démocratie. Elle alourdit en revanche considérablement la procédure. La carte d'électeur ne suffit pas en effet. Il faudra ensuite prendre contact avec les services municipaux du citoyen pour vérifier qu'il est inscrit sur les listes électorales. Nous pensons également que le mécanisme d'alerte pourrait être mieux mis en œuvre sous forme de demande d'avis plutôt que ce simple envoi d'observation. De fait, un avis garantirait aux citoyens le suivi de ses requêtes. La notion de conflit d'intérêts étant une notion complexe pour les élus comme pour les citoyens, si la haute autorité n'est pas en mesure d'assurer un dialogue équilibré dans la meilleure entre les deux parties, dans la meilleure compréhension des conflits, on craint qu'elle ne permette pas de rétablir la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs représentants.
Je vais prendre la suite. Divers progrès ont également vu le jour au Palais Bourbon, notamment concernant l'encadrement financier des micro-partis, la reconnaissance légale des collaborateurs parlementaires, l'encadrement des activités professionnelles des membres du Conseil constitutionnel, ou encore l'obligation pour les parlementaires de mentionner au sein de leur déclaration d'intérêt les listes de cadeaux qu'ils auraient reçus. Ces progrès s'accompagnent cependant d'un certain nombre de reculs, au regard des ambitions premières exprimées par le gouvernement comme par le président de la République, à commencer par la question éponyme de la transparence elle-même. Le débat de ces dernières semaines montre que la transparence ne doit pas être vécue comme une punition. C'est un effort démocratique qui vise à lever les suspicions et à restaurer la confiance. Placer des barrières entre les citoyens et les élus ne dissuade absolument pas la suspicion. Cela réduit en revanche considérablement la marge d'action qui permettrait de valoriser les élus et leur travail. En ne réservant l'accès aux deux types de déclarations qu'à une partie seulement des citoyens, le système proposé sert aujourd'hui plus le voyeurisme que la transparence démocratique. Le texte nous semble donc améliorable sur quatre axes majeurs. La publication de l'évolution des patrimoines, la large publicité pour réutilisation des déclarations d'intérêt, la transparence de la haute autorité elle-même, ainsi que les éléments de transparence démocratique non abordés par le texte à ce jour, comme l'encadrement du lobbying ou la publicité des scrutins publics. Concernant les patrimoines, nous nous sommes exprimés à Regards Citoyens depuis le début contre la publication des déclarations de situation patrimoniale. Il nous semble en effet que l'important les concernant est d'assurer qu'un contrôle efficace soit réalisé par la Haute Autorité. Pour cela, il est indispensable que ces déclarations de patrimoine prennent compte des déclarations de patrimoine des proches, de la famille. Et dans ces conditions, il nous semble que si elles étaient rendues publiques, on serait dans une situation de grave atteinte à la vie privée des élus. En revanche, nous pensons que leur publication ne présenterait qu'un intérêt démocratique très faible pour les citoyens. Ce qui est important n'est pas de connaître la richesse des élus, mais l'enrichissement des élus au cours de leur mandat. C'est pourquoi nous défendons une solution intermédiaire, proposée par plusieurs députés de la majorité lors des débats à l'Assemblée, mais malheureusement rejetée. Il s'agit de la publication par la Haute Autorité, non des déclarations de patrimoine, mais de leur bilan d'évolution suite au contrôle réalisé. Contrôle qui pourrait probablement être reconduit à intervalles réguliers en cours de mandat et non uniquement en fin de mandat.
Je prends la suite à nouveau. Donc, je passe aux déclarations d'intérêt puisqu'on en a fini avec les déclarations de patrimoine. Concernant les déclarations d'intérêt, il nous semble essentiel qu'elles soient publiées sans barrière. En fait, elles sont centrales au rétablissement de la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Donc elles doivent se permettre de s'assurer que les déclarations publiques sont prises de manière indépendante. La large publication doit donc inclure à la fois l'accès et la possibilité de réutilisation par tous, citoyens comme journalistes. Cet objectif répété par le ministre comme par de nombreux parlementaires n'est malheureusement aujourd'hui pas garanti. Le ministre à ce sujet a dit que ce serait réexaminé au Sénat. Au contraire des déclarations d'intérêt des sénateurs, précurseurs en la matière puisque vous les rendez déjà publics sur votre site depuis plusieurs années, celles des députés sont aujourd'hui enfermées dans un coffre-fort de l'Assemblée nationale. Les récentes réformes dans le domaine de la santé laissent préjuger de la prolongation d'une situation similaire. En effet, suite à l'affaire Mediator notamment, le précédent gouvernement avait souhaité procéder, avec l'aval manifeste de l'opposition d'alors, à une large opération de transparence du monde de la santé. Il y a eu effectivement l'imposition à un certain nombre de publications des déclarations d'intérêt des membres des hautes autorités de santé, telles que l'Agence de sécurité du médicament ou la Haute Autorité de la Santé. Pourtant, suite aux avis de la CNIL, ces déclarations restent aujourd'hui quasiment inaccessibles ou au moins inutilisables. De fait, alors même que la volonté du législateur était bien la large publication de ces informations pour un usage citoyen ou journalistique, la CNIL a estimé dans son avis que les déclarations publiques d'intérêt contenaient des informations confidentielles, qu'il fallait en conséquence les retrancher derrière des barrières techniques visant à empêcher leur réutilisation. Certaines sont aujourd'hui cachées derrière les CAPTCHA. Les CAPTCHA sont des mécanismes informatiques qui permettent de s'assurer que c'est bien un humain qui est derrière l'ordinateur. De fait, la collecte automatisée de ces données est nécessaire à évaluation, mais néanmoins interdite par le biais de ces mécanismes. La CNIL est allée également plus loin en demandant à ce que les déclarations d'intérêt soient publiées sous forme d'images, donc ce qui empêche toute réutilisation automatique et pose également un problème d'accès et d'égalité du citoyen face à la loi. En effet, la loi sur le handicap de février 2005 impose que les textes publiés sur Internet par les instances publiques soient réutilisables par tous. Or, ce format image empêche la réutilisation et l'indexation par les navigateurs braille utilisés par les aveugles ou les malvoyants. Donc, les aveugles et malvoyants sont de fait exclus de cette volonté de transparence à l'égard des organismes de santé. De l'aveu du rapporteur de l'Assemblée, la CNIL a souhaité s'exprimer à nouveau sur les futures déclarations d'intérêt. Donc le déploiement de mesures techniques similaires pourrait susciter l'annihilation des efforts de transparence voulus par le législateur. Donc nous proposons, afin d'empêcher la répétition de ce fâcheux précédent, de spécifier explicitement dans le texte que les informations contenues dans les déclarations d'intérêt soient rendues publiques sur le site de l'autorité, seront réutilisables au sens de la loi de 1978 d'accès aux documents administratifs, dite CADA, qu'elles le soient dans des formats ouverts réutilisables au sens de la libération des données publiques ou open data, ce qui a été réaffirmé la semaine dernière au G8 par l'ensemble des membres du groupe, notamment le président français. Cette proposition d'amendement a été défendue par plusieurs groupes de la majorité comme de l'opposition à l'Assemblée nationale. Elle a recueilli l'avis favorable du ministre et a été finalement rejetée, suivant un avis défavorable du rapporteur au prétexte d'une interprétation liée à une rédaction jugée imprécise. Nous l'avons donc reprécisé au sein de différentes propositions d'amendements que nous adresserons dès demain aux membres de la commission des lois du Sénat.
Je vais conclure. Outre le problème de transparence des déclarations d'intérêt, il nous semble que le texte souffre d'un second problème de taille, celui de la transparence de la haute autorité elle-même. Au vu des principes de transparence édictés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fondement de la Constitution de 1958, il nous semble anormal que l'intégralité des activités de la haute autorité soit exclue du champ de l'accès aux documents administratifs prévus par la loi CADA. Aucune autre institution, même l'autorité de la concurrence, n'est aujourd'hui ainsi exclue d'une loi aussi importante. S'il est normal que le texte prévoie une confidentialité des documents d'enquête menés par l'autorité, les informations liées au fonctionnement de la haute autorité, ainsi que les réponses faites aux sollicitations du gouvernement sur l'évolution de la loi ou la réglementation du lobbying, seront ainsi des informations non communicables aux citoyens. Il nous semble donc plus raisonnable de limiter l'exclusion du champ de la loi CADA aux seuls documents d'enquête liés à la vérification des déclarations d'intérêt et de patrimoine. Concernant la publicité des votes des parlementaires, nous estimons que la discussion de textes sur la transparence de la vie publique est une occasion en or pour traiter ce problème au sein des deux assemblées, qu'il s'agisse de rendre enfin public à l'Assemblée les positions de vote de chaque député lors des scrutins dits publics, ou d'assurer pour le Sénat le bon respect de l'ordonnance de 1958 régissant le mécanisme des délégations de vote. Ayant déjà eu l'occasion lors de la réforme du règlement de décembre 2011 de voir débattu cette question parmi vos murs, malheureusement alors rejetée par les sénateurs de l'actuelle majorité, nous ne nous attarderons pas plus sur ce point et nous restons naturellement disponibles pour repréciser cette question par ailleurs. Nous aimerions en revanche, pour conclure notre intervention, nous pencher sur la question de l'encadrement et de la transparence du lobbying. Longtemps ignoré ou tabou en France, il nous semble en effet que la question du lobbying se montre aujourd'hui incontournable à la lumière de l'actualité. Le volet pharmaceutique de l'affaire Cahuzac, la mise en examen d'une ancienne sénatrice et d'un lobbyiste avec lequel elle avait l'habitude de travailler, l'exclusion à l'Assemblée nationale de Thierry Coste, ou encore l'émotion suscitée par le documentaire de France 2 sur la proximité entre lobbyistes du tabac, parlementaires et hauts fonctionnaires, montrent que la France ne peut continuer à ignorer les problèmes posés par l'absence de régulation du lobbying. C'est le sens de l'appel que nous avons initié avec des lanceurs d'alerte, journalistes et organisations nationales et internationales, comme Anticor, Corporate Europe Observatory ou Irène Frachon. Plus de 200 organisations européennes nous ont depuis apporté leur soutien. Si le Sénat comme l'Assemblée ont édicté un code de déontologie et un registre public, le pouvoir exécutif ne s'est pas encore saisi du problème. Un récent sondage montre pourtant que 60% des décideurs publics trouvent que les entreprises privées n'agissent pas de manière assez transparente lorsqu'elles souhaitent influencer la décision publique. Nous avons proposé pour ces raisons que la Haute Autorité de la Transparence soit chargée de la tenue d'un registre public dans lequel tous les acteurs réalisant du lobbying, y compris des associations comme la nôtre, ou les nôtres, auront l'obligation de s'inscrire et de déclarer leurs intérêts, actions, dépenses et clients. Facile à mettre en place et non contraignant pour les acteurs publics, ce mécanisme existe déjà de plus dans de nombreuses démocraties, notamment le Québec. Et l'Union européenne se dirige également vers son adoption. Le sondage TNS Sofres que nous citions précédemment illustre le degré de maturité des décideurs publics en la matière. Une large majorité souhaite en effet la création d'un tel outil obligatoire pour l'activité des lobbyistes. L'effort pour administrer ou contrôler les lobbyistes devrait rester modeste pour la haute autorité au regard de ses autres nombreuses responsabilités de contrôle. Mais le lobbying étant une activité concurrentielle et exposée médiatiquement, la publicité du registre permettrait à la société civile d'aider la haute autorité pour détecter les acteurs qui ne respecteraient pas ces règles. Cette solution reste enfin compatible avec la liberté de chaque constitution d'édicter ses propres règles d'interaction vis-à-vis des représentants d'intérêt. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les propositions que Regards Citoyens souhaitait porter à votre connaissance afin d'assurer, grâce à cette réforme, une véritable transparence démocratique. Nous vous remercions.
Merci. Je remercie Monsieur Boutet et Monsieur Og Tabanou pour cet exposé en duo qui a traité de beaucoup de sujets, y compris des sujets qui ne relèvent pas forcément directement des projets de loi, mais qui sont intéressants et importants pour nous et pour vous.